Puis justement, vous pouvez éteindre vos téléphones, mais gardez-les pas trop loin parce que j'ai un exercice pratique à vous donner à la fin et vous pouvez photographier les dernières diapos, je vais vous dire quand, avec votre appareil photo et puis comme ça, vous pourrez faire l'exercice à la maison. Mais c'est ça, donc c'est pas pour faire d'autres choses avec votre téléphone, mais... Mais il y aura un exercice à photographier tantôt. La formation des responsables, donc les diacres, les anciens, l'équipe pastorale de samedi matin, ça va être quelque chose vraiment de base. On veut que ça commence avec les leaders, mais tous doivent travailler ensemble sur... En fait, on va se pencher sur... le temps qu'on passe en communion avec Dieu à la maison, le culte personnel qu'on appelle, il y a d'autres noms, le temps dévotionnel. Et donc, priez pour nous. Et on va aussi en parler ce matin dans le message, parce que ça nous concerne tous. Que ta volonté soit faite. C'est la troisième requête du Notre Père. Et certains vont dire que c'est un peu le centre de la prière. Mais d'abord, imaginons un jeune homme. Un jeune homme qui est un bon vivant. Il prend la vie comme elle vient. Il n'a jamais pris la vie trop au sérieux. Et admettons que ce jeune homme tombe amoureux d'une jeune femme qui, elle, est plus sérieuse dans la vie, OK? Et le jeune homme décide, je vais lui déclarer mon amour. Alors, imaginez qu'elle lui réponde, « Bon, je ne suis pas complètement indifférente à tes charmes, mais si tu veux vraiment que je t'aime en retour... Je veux que tu trouves une vraie job, un vrai emploi. Je veux que tu deviennes sérieux dans ton emploi, que tu payes tes dettes et je veux que tu commences à dépenser généreusement sur nos sorties ensemble, notre relation. Voilà mes volontés, voilà mes conditions. » Alors, imaginez que le jeune homme lui réponde, « Mon amour, je te souhaite que ta volonté s'accomplisse. J'espère qu'un jour, tes demandes se réaliseront. En attendant, veux-tu aller au cinéma avec moi ce soir? » Comment pensez-vous que cette jeune femme va réagir? Bon, je vais répondre à votre place. Il me semble que sa réponse est faible. C'est un peu ambigu. Ça donne l'impression que son souhait pour l'avenir, c'est justement simplement un souhait, une belle parole. Je crois que cette jeune femme risque de ne pas être trop convaincue par cette parole-là. J'espère qu'un jour, tes volontés s'accompliront. Alors que c'est ça que vraiment elle veut voir s'accomplir. Maintenant, si le jeune homme, prenant un autre cas, mettons qu'il lui réponde, « Mon amour, eh bien, ta volonté, je vais l'accomplir. Tout ce que tu veux, je vais le faire. Tes désirs sont mes ordres. » C'est quand même un peu mieux, non? Elle sera davantage convaincue, en espérant qu'il est sincère. Elle va donner une chance au coureur. Alors, c'est important de réaliser, quand on revient maintenant à la prière du Seigneur, quand il demande ou il propose aux disciples de Jésus de dire au Père Céleste « Que ta volonté soit faite », ni l'une ni l'autre des deux réponses du jeune homme qu'on a vues, ni l'une ni l'autre ne convient vraiment. C'est parce que Dieu est différent des humains et la volonté de Dieu, elle n'est pas pareille à la volonté des humains. On va creuser ça un peu ce matin. Quand on dit au Dieu de l'univers que ta volonté soit faite, okay? Dieu ne veut pas entendre « Oh Dieu, je te souhaite qu'un jour ce que tu veux se réalise. » Comme si ça ne m'engageait pas moi-même. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'insatisfaisant de, à côté de la plaque, de dire à Dieu, « Dis-moi ta volonté, puis je m'en occupe, je vais le faire. » Pourquoi? Parce qu'il faut réaliser aussi que la volonté de Dieu nous dépasse complètement. Enfin, pas complètement, mais en grande partie. Ça dépasse de loin ce que je peux comprendre ou ce que je peux accomplir. Donc, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est les deux en même temps et plus encore. En fait, la leçon de ce matin, par rapport à cette requête, que ta volonté soit faite, prier que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, c'est dire à Dieu, viens, il devrait y avoir un S là, mais en tout cas, viens accomplir ton plan de transformation du monde. Viens accomplir ton plan de transformation de nos vies. Viens me transformer, car je me rends disponible. Voyez-vous qu'il y a les deux là-dedans. Il y a « Viens, toi, accomplir ta volonté. » Il y a « Rends-moi capable de faire ma part dans ce plan où tu m'inclus. » On va relire ça. « Viens accomplir ton plan de transformation du monde, de transformation de nos vies, et viens me transformer, car je me rends disponible. » En fait, quand on regarde ça, on se dit, ben, finalement, cette petite prière de Jésus, que ta volonté s'accomplisse, elle est reflétée dans beaucoup de prières chrétiennes, même des prières qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Et on a dit que le Notre Père, c'est un modèle pour la prière du chrétien en général. Prenons une autre prière qui n'est pas dans le Nouveau Testament, mais qui est dans l'Alliance chrétienne et missionnaire. C'est notre prière visionnaire. Vous verrez qu'il y a des recoupements. C'est vrai. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Jésus, dynamisés par l'Esprit, axé sur la mission et capable de nous multiplier partout. La multiplication voulant dire former de nouveaux disciples, voir des nouveaux bébés spirituels naître par l'Évangile et les former vers la maturité après. Donc, voyez-vous, ce n'est pas exactement la même prière, mais il y a une continuité, hein? Que ta volonté soit faite sur la terre implique cet aspect-là de notre mission. Donc, il y a plusieurs manières de développer cette prière si simple de Jésus, mais si remplie de signification. Elle nous conduit vers de multiples dimensions de Dieu et de multiples dimensions du monde. Et ce qui est important, c'est qu'en priant cette prière, moi, personnellement, je me rends à la fois disponible pour l'action, hein? Comme le jeune homme qui il dit pas, ben j'espère que ce que tu veux va s'accomplir. Non, il s'engage et nous aussi on s'engage, mais il y a quelque chose d'un peu spécial quand on s'engage avec Dieu, c'est qu'on s'engage en se rendant passif. Peut-être que ça vous choque comme façon de parler. Pourquoi? Parce qu'on devient le conduit, on se calme, on laisse Dieu venir pour agir à travers nous. Et ce que je dis là, la Bible dit aussi, hein, voici ce que Paul dit à propos de la sanctification. Alors, est-ce qu'il y en a, qui, j'imagine, qui peuvent m'aider ici? La justification, c'est quand Jésus sur la croix effectue le pardon de nos péchés, nous rend juste devant Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est fait par Dieu seul. La sanctification, c'est quel autre aspect de l'œuvre de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de m'expliquer le mot sanctification. Il y a des pros dans la salle, oui. Ben, vas-y, Francis, comment tu dirais, en langage simple, la sanctification, l'étape 2, là, ça serait quoi? Merveilleux, oui. Alors, la première étape, c'est, mettons, le criminel qui est devant le tribunal, puis le juge, il dit, « Je te déclare pardonné, je te déclare disculpé, aucune condamnation, aucune culpabilité. » Et la deuxième étape, c'est que, c'est ça que Christ fait, il vient en ce criminel, et l'amène dans une marche, comme Francis a dit, une marche où il va devenir petit à petit plus comme Jésus, moins comme un criminel. En fait, c'est son ancienne vie. Voilà, tu l'as dit mieux que moi, mais voyez, il y a deux étapes. Oui. Mise à part de, et deuxième étape, mise à part pour. Merci beaucoup, Francis. Et... ce que je voulais dire, c'est que dans cette deuxième étape, il y a cette idée qu'on collabore, mais dans un sens, il y a un côté passif. On dit, Seigneur, je ne suis pas capable, viens en moi le faire à ma place. Et on n'est pas complètement passif, mais on fait appel à Dieu. Et Paul le dit ainsi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc, Dieu produit en nous la propension à agir. Alors, revenons à « Que ta volonté s'accomplisse sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. » Je voudrais qu'on regarde, pour mieux comprendre cette prière que Jésus nous demande de faire, trois sous-entendus de Jésus. La manière qu'il formule la prière, il y a au moins trois sous-entendus de Jésus qui, quand on les regarde, ça nous aide à approfondir. Premièrement, cette volonté de Dieu est au-delà de notre portée, on l'a dit. Deuxièmement, c'est que Jésus, il sait que nous doutons que Dieu est vraiment un bon papa et qu'il vient pour corriger ça. Troisièmement, Dieu a une volonté pour toute la terre, pas juste pour moi, mais pour toute la terre. Alors, on va au moins ce matin regarder ces trois sous-entendus de Jésus. Alors, le premier sous-entendu, la volonté de Dieu, alors ça, c'est la mauvaise diapo, on va avancer pour reculer. La volonté de Dieu est au-delà de notre portée. Dieu est infiniment grand, il est infini, tout le monde est d'accord? Et sa volonté est grande, sa volonté est infiniment au-delà de ce qu'on peut comprendre. Un peu comme sa pensée, hein? Ésaïe 40, verset 28, le psaume 139 vont dire, « Tes pensées sont impénétrables pour les humains. » Dans sa grâce, Dieu vient nous inclure dans sa volonté, dans sa pensée, à un niveau que nous, on peut participer. Mais quand même, on réalise que c'est juste une petite partie. C'est en même temps très, très grand. Parlons un peu de différents niveaux, on pourrait dire, de la volonté de Dieu, juste pour clarifier ce que je veux dire. Premièrement, il y a une volonté révélée de Dieu qui est générale. Déjà dans la nature, Dieu révèle certains aspects de lui-même, mais surtout dans la Bible, dans les Écritures saintes, Dieu va, avec plus de précision, nous révéler qu'est-ce qu'il veut de manière générale, pourtant très, très importante. Et surtout dans la personne de Jésus-Christ que nous découvrons dans la Bible, Dieu révèle sa volonté glorieuse, mais d'une manière générale, c'est-à-dire pour tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est pour ça que nous devons être des étudiants de la Bible et des méditeurs de la Bible. C'est très, très, très important. Ça, c'est la volonté générale de Dieu qui est extrêmement importante, qui est, nous sommes sous son autorité. Mais saviez-vous aussi qu'il y a une volonté plus spécifique de Dieu pour chacun de nous? Oui. On le voit partout dans la Bible que Dieu, il vient parler à des individus pour leur montrer le chemin, particulièrement dans des situations difficiles. Pas à tout bout de champ. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont dire, « Ben, je me suis levé ce matin et j'ai invoqué le Saint-Esprit pour lui demander, est-ce que c'est des Rice Krispies ou des Corn Flakes que je vais manger ce matin? » Alors, peut-être que le Saint-Esprit va répondre, peut-être qu'il va lui dire, mais peut-être qu'il va lui dire, « Tu connais ma volonté générale, je t'ai donné une intelligence, je t'ai donné un raisonnement, je t'ai donné un conjoint avec qui tu peux discuter de la chose, tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te donne une révélation spéciale pour ça. » Mais quand même, il faut avouer qu'il y a beaucoup de situations dans la vie où on ne sait pas quoi faire. On connaît la volonté générale révélée de Dieu, on connaît la Bible et c'est déjà énorme. Mais Dieu nous a donné son Esprit Saint, ça veut dire sa présence même à l'intérieur de nous. Si tu as reçu Christ dans ta vie, c'est que l'Esprit Saint, il vit en toi. Donc Dieu vit en toi. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu qui aime communiquer? Pensez-vous? Tout le temps. En fait, c'est vrai. Dieu, c'est un Dieu qui est plein d'amour, qui... Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui communique avec les humains. Et donc, c'est ce que nous voyons aussi parmi les premiers chrétiens de la Bible, et même les Israélites avant eux, l'Esprit-Saint leur parle. Alors, l'Esprit-Saint ne va jamais contredire la Bible. Et c'est pour ça qu'il faut l'étudier. Il faut bien la connaître. Mais cette volonté spécifique de Dieu pour toi, pour tel ou tel problème que tu as, ou telle situation, le Saint-Esprit peut te parler. Comment est-ce qu'il peut nous parler? On en parlera plus à d'autres reprises, mais c'est souvent par une petite voix à l'intérieur de nous. Et c'est souvent quand on donne du temps pour la prière, la méditation de la parole de Dieu, que quelque chose va nous venir. Et c'est quelque chose où on sent que oui, c'est le Maître qui me parle. J'ai eu une expérience cette semaine, suite à la visite d'Adam, que nous avons entendue mardi soir. Adam, c'est un missionnaire au Moyen-Orient. Je pense que si je ne dis pas son nom de famille, je pense que je peux parler. Mais il faut faire attention. Oui, oui, c'est ça. OK. On va l'appeler A. Et lui parlait du verset, Jean 15, verset 2, « Celui qui est en moi et qui porte de fruits, qui porte du fruit, mon Père va le tailler pour qu'il porte encore plus de fruits. » Et le lendemain matin, j'étais dans un temps de méditation biblique et je me suis dit, il faut que je médite ce verset qui m'avait touché. Et là, le Seigneur m'a parlé intérieurement. Je l'ai senti. Est-ce que je peux être sûr? L'Esprit-Saint m'a parlé. Il faut y aller avec prudence. J'ai senti que l'Esprit-Saint m'indiquait quelque chose et me disait, il y a beaucoup de bonnes choses dans ta vie, Marc, beaucoup de bonnes activités dans ta vie, dans la vie de l'Oasis, mais il y a certaines bonnes activités qui t'empêchent de bien t'occuper de certaines nouvelles personnes à l'Oasis, simplement parce que tu es trop occupé. Et peut-être pas seulement moi, mais peut-être l'Église en général, on porte du fruit avec toutes sortes de branches. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Je vais tailler. Et c'est peut-être tailler certaines activités, certaines passions, certains intérêts pour que le fruit pousse mieux à d'autres endroits. Alors, comment savoir où? C'est là où Jésus peut révéler une parole spéciale. Donc, c'est un peu comme si le Seigneur me disait, Marc, prépare-toi, je veux tailler un peu dans ta vie. Et peut-être aussi dans l'Oasis, on verra, c'est sûr que c'est ensemble qu'on va discerner ces choses-là. Mais voyez-vous comment on peut passer d'un principe général que Jésus révèle, il taille les branches à quelque chose de plus spécifique. Cette semaine, je veux que tu tailles telle chose ou je veux tailler telle chose. C'est un aspect de la volonté spécifique de Dieu. C'est intéressant, non? Qu'on peut entrer dans cette dynamique avec notre Seigneur. Maintenant, la volonté de Dieu aussi a une dimension cachée. Et c'est quand même important. Alors, il y a une dimension cachée de la volonté de Dieu qu'on ne saura jamais avant, j'imagine, avant le royaume final, parce que ça concerne des choses célestes. Mais il y a aussi une partie de la volonté cachée de Dieu qui vient nous frapper en plein visage des fois. C'est entre autres les épreuves inexplicables qui peuvent arriver. Et je ne vous en souhaite aucune, mais peut-être que vous êtes dans une épreuve qui vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Et c'est possible que Dieu ne va jamais vous le dire avant que vous le rencontriez face à face. Une maladie qui vient vous atteindre au moment que vous trouvez, ce n'est pas le bon moment. Hein? Si j'étais toi Dieu, je n'aurais pas permis cette maladie à ce moment-là. Un décès, une déception dans un projet, un désastre naturel. Imaginez nos frères et sœurs aux Philippines. En fait, les églises de l'Alliance ont été durement frappées par le tremblement de terre qu'il y a eu aux Philippines il y a une dizaine de jours. Leurs églises détruites, je n'ai pas vu au niveau des victimes humaines. Pourquoi, Seigneur, à ce moment-là? Devant cette volonté cachée de Dieu, nous pouvons quand même le prier, nous devons quand même le prier, avec la foi, bien sûr, que ta volonté s'accomplisse. Ce qui signifierait dans cette situation-là, sans forcer, bien sûr, je veux dire, des fois, on est tellement déboussolé qu'on ne peut même pas prier, mais d'en venir à pouvoir prier à nouveau, « Seigneur, oui, j'accepte de passer par cette épreuve, même si je ne comprends pas ta décision de me l'envoyer. Tu vas m'aider à passer à travers et à te rendre gloire dans cette situation inexpliquée, inexplicable pour moi. » Dieu a toujours une raison. Avec tout ça, on peut conclure que la volonté de Dieu, nous pouvons la connaître en partie et elle est bonne pour nous, mais elle est au-delà de notre portée. Et donc, nous invitons Dieu à venir agir lui-même et à nous guider dans notre action. Nous prenons la décision de nous soumettre à sa volonté et de nous rendre disponibles comme servantes et comme serviteurs. Et c'est lui qui va nous guider. On va marcher dedans, comme Francis disait tantôt. Que ta volonté vienne s'accomplir, Seigneur. Je vais reculer. Le deuxième présupposé de Jésus, c'est un présupposé à propos de nous-mêmes. Nous doutons que Dieu est vraiment un bon papa. Je plaide coupable. S'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans, tant mieux. Ma vie est un combat contre le doute que Dieu est un bon papa pour moi et qui m'aime vraiment et qui s'occupe de moi. Bon, je ne dis pas que c'est constant, mais je dis que c'est récurrent, que le combat est récurrent et Jésus est là pour m'aider. C'est pour ça qu'il me donne cette prière. Souvenez-vous de la ruse du serpent dans le jardin d'Éden avec les premiers humains. Qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Il a installé dans le cœur des premiers humains ce soupçon comme quoi Dieu a des mauvaises intentions pour nous, des intentions égoïstes, comme quoi le Père Céleste est un Père égoïste. Il veut se protéger lui-même de nous. Il ne veut pas qu'on se développe trop, qu'on s'épanouisse comme nous, on pense qu'on devrait. Et c'est dans cette séduction-là que le serpent nous a amenés. Puis vous savez, il a réussi son coup parce que jusqu'à aujourd'hui, nous, les humains, nous résistons à prier cette prière de tout notre cœur. Que ta volonté s'accomplisse, ô bon Papa Céleste. On peut regarder aux extrémistes, il y a les gens anti-religieux. Moi, je me souviens, il y avait des moqueurs à l'université où j'étudiais. Ils avaient transformé la prière pour se moquer. Et excusez-moi, c'est juste pour vous dire, peut-être vous l'avez déjà entendu, celle-là, ils priaient « Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Hein? » Restez aux cieux, c'est-à-dire Dieu, on ne veut rien savoir. Et c'est un peu l'idée, viens pas nous alourdir, que tu existes ou que tu n'existes pas. Moi, j'avais des amis qui disaient, peut-être qu'il existe, mais je ne veux pas qu'il me dérange. Et l'idée, c'est que je ne veux pas qu'il vienne m'alourdir avec ses fardeaux qui vont m'empêcher d'être joyeux, de m'épanouir, d'être libre. Mais souvent, vous savez, les gens religieux et même les chrétiens, c'est pas beaucoup mieux. On a tendance, malheureusement, à cause de cette même maladie que le serpent a contribué à mettre dans nos cœurs, on s'enferme dans le légalisme des commandements. J'espère que ça n'arrivera jamais à l'Oasis. Mais je vous dis que c'est une tendance humaine. On s'enferme dans le légalisme des commandements. Et finalement, on a notre propre système. On choisit certains commandements qui nous arrangent. On y obéit. On est notre propre juge. On se considère supérieur aux autres humains. Et au fond, sans s'en rendre compte, on dit à Dieu, « Laisse-moi tranquille. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être juste devant tes yeux. » Finalement, on ne veut pas, nous non plus, que Dieu nous dérange. Donc, que tu sois extrêmement anti-religieux ou extrêmement religieux, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. c'est que quand on découvre Jésus, Dieu nous fait comprendre et va te faire comprendre à quel point il t'aime et à quel point il est un bon papa. Un bon papa qui a payé le plein prix pour que tu sois rétabli, pour que tu sois rétabli dans son amour. Ce prix, c'est Jésus, son Fils, qui l'a envoyé, qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour vivre sa vie maintenant à travers toi. Dieu a payé le plus grand prix. Il t'aime. Il te l'a prouvé. Et il faut que tu apprennes à vivre dans cet amour. Il faut que si tu luttes avec une compréhension de Dieu qui est tendue entre Dieu le bon papa et Dieu le mauvais papa, bien que tu sois guéri. Ton médicament, c'est l'Évangile. L'Évangile est le médicament dont tu as besoin pour reprendre goût à voir s'accomplir la volonté de ton Papa céleste et d'y obéir avec joie. L'Évangile est ce médicament dont tu as besoin pour reprendre goût à la volonté de Dieu. As-tu un petit peu perdu confiance en Dieu qui t'aime? J'aimerais prier pour toi maintenant. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Viens y planter la réalisation de l'Évangile, cette pleine connaissance, Seigneur, de ton amour débordant. Parce qu'avant d'envoyer Jésus, c'est ton amour débordant qui t'a fait crier, qui t'a fait pondre ce projet de venir toi-même souffrir à ma place. Père, viens changer nos cœurs pour que nous soyons des enfants vraiment confiants en ton amour de papa. Viens nous guérir, Seigneur. J'ai besoin de ta guérison. Amen. Je n'ai pas fini le sermon, là. C'était juste une prière au milieu du sermon. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'en arrive à la dernière présupposition de Jésus ici. Dieu a une volonté pour toute la terre. C'est sûr que si vous êtes comme moi, quand vous priez beaucoup pour vous-même. Moi, je suis comme ça. Et c'est vrai que c'est une tendance humaine d'avoir beaucoup à cœur notre propre vie. Ce n'est pas mauvais, mais cette prière nous amène à aller plus loin. Que ta volonté s'accomplisse, et Jésus rajoute, sur la terre comme aux cieux. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme aux cieux. Le grand prédicateur de l'Antiquité, Jean Chrysostome, on l'appelait celui qui avait la bouche d'or, tellement il prêchait bien. Et il disait, par rapport à ça, Jésus ne nous a pas enseigné à prier que ta volonté se fasse dans ma vie, bien que c'est une bonne prière, ça fait partie, que ta volonté se fasse dans mon Église, c'est bon aussi, mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Dans ma nation, c'est bon aussi. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Mais sur la terre, toute la terre. Toute la terre. Ça m'a secoué d'entendre A, qui nous parlait d'un peuple au Moyen-Orient, 50 millions d'âmes, avec, il n'y a pas longtemps, il y avait juste 5 missionnaires dans ce pays, ou dans cette nation, et peut-être une douzaine de chrétiens connus. 50 millions, c'est pas deux fois le Canada, mais ça s'approche. Ça m'a secoué. Il y avait un côté désagréable à cette réalisation pour moi de dire « Wow, on a du travail à faire ». Et puis oui, ça m'implique moi aussi. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire « Bien, ça c'est leur problème, moi je m'occupe de ma vie ». Non. Alors, ça vient alimenter ma prière, que ta volonté s'accomplisse sur toute la terre. Il y a des missionnaires pour qui prier. Il y a des peuples pour qui prier. Il y a des larmes à couler pour les non-croyants qui ne sont pas encore sauvés pour l'éternité. Prier que la volonté de Dieu vienne pour toute la terre inclut aussi la justice, la droiture, la justice entre les nations, le soulagement des affligés, la bonne gestion des ressources naturelles, toutes sortes de choses. Et c'est une prière qui peut nous mener aussi dans de longues réflexions et même des souffrances de l'âme. Finalement, pourquoi est-ce que Jésus rajoute sur la terre comme aux cieux? C'est quoi l'idée? Eh bien, il y a plusieurs interprétations. J'aime bien celle de Jean Chrysostome, l'homme à la bouche d'or. Et il disait ceci, Jésus amène notre espérance future, le royaume qui vient, dans nos vies. Il amène le ciel sur la terre. Dieu veut que les humains, ou tout au moins les disciples de Jésus qui prient la prière, il veut qu'on devienne comme les anges qui sont aux cieux, qui sont autour du trône. Parce que eux, et là je ne parle pas des anges déchus qui sont en rébellion, mais ceux qui sont autour du trône, ils obéissent à Dieu facilement, immédiatement et puissamment. Quand Dieu les envoie en mission, ils y vont tout de suite. Et ça fait plaisir au cœur de Dieu. Et donc, quand nous sommes sanctifiés, quand nous apprenons à obéir à la volonté de Dieu sans rouspéter, sans hésiter, avec foi, nous devenons un peu comme les anges. Et en quelque part, notre entourage devient un petit peu le reflet du ciel sur la terre. Vous me suivez? C'est bon? Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va maintenant résumer ce qu'on vient de voir avec cette prière. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, c'est dire à Dieu, viens accomplir ton plan de transformation du monde entier. Viens transformer ma vie, car je me rends disponible. On a vu aussi que Jésus veut nous corriger si jamais on se trompe. La volonté de Dieu est toujours beaucoup plus grande que ce que moi je peux comprendre ou faire. Donc oui, il faut que lui vienne agir. Deuxièmement, il veut corriger mon doute. Mon Dieu, c'est un bon Papa Céleste. Je peux vraiment lui faire confiance pour toutes choses, dans les bons temps et dans les mauvais temps. Et troisièmement, Dieu a une volonté pour toute la terre. Je vous rappelle aussi le médicament prenez votre médicament cette semaine. L'Évangile, c'est votre médicament pour reprendre le goût à voir s'accomplir la volonté de ton Papa céleste et d'y obéir avec joie. Et finalement, un exercice. Vous avez le droit de sortir vos téléphones pour prendre une photo. Parce que, une chose qu'on a dit, que ta volonté s'accomplisse, est-ce que tu passes du temps dans la parole de Dieu? C'est une manière de réaliser la prière. Tu fais un peu une partie de la réponse. Si toi, tu commences à méditer la Bible. Alors, j'ai préparé un petit exercice pour vous. Peut-être, si vous avez un plan de méditation déjà, c'est correct. Vous pouvez continuer avec votre plan. Ou vous pouvez le mettre en pause pour une semaine, parce que j'ai quatre textes ici. C'est vrai qu'il y a 7 jours dans une semaine, mais là, je vous en donne juste 4, au cas où vous êtes en retard pour le travail, puis vous devez manquer un jour, on vous tiendra pas à rigueur de ça. Voici 4 textes, puis c'est vraiment du bon stock. Ça, c'est Jésus qui parle de l'amour de Dieu pour ses enfants et de son plan. Vous avez 4 textes ici que vous pourrez méditer entre maintenant et dimanche prochain. Puis dimanche prochain, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez appéri? Alors, si vous ne l'avez pas fait, ne venez pas dimanche prochain. Non. Il n'y aura aucun jugement, aucune critique. Mais je vous encourage à essayer, parce que je l'ai fait, cet exercice, et je l'ai vraiment aimé. Alors, voilà les 4 textes. Si vous voulez plus, vous continuez dans Jean 16 et jusqu'à Jean 17. Mais les étapes sont les suivantes de l'exercice. Prenez une photo aussi quand j'aurai fini ici. Premièrement, prie avant de lire. Parce qu'un texte comme ça, là, ça prend 5 à 8 minutes à lire. C'est pas long. Prie, demande au Saint-Esprit de te conduire. Lis-le 2 fois, pas trop vite. Après ça, médite-le. Vous allez sentir de la résistance peut-être. Essayez quand même. Donc, relisez-le. Priez cette prière. Jésus, aide-moi à voir quelque chose. Aide-moi à comprendre quelque chose. Vous inquiétez pas ce que les autres pensent. Oubliez le pasteur. Vous, vous êtes rendu où vous êtes rendu. Seigneur, montre-moi quelque chose pour moi. Et posez cette question maintenant. C'est ça la twist que je vous encourage à faire pour la volonté spécifique de Dieu. Posez-lui cette question. Osez poser. Seigneur, veux-tu me parler par un verset particulier? Est-ce que tu veux me parler ce matin à travers un des versets que je viens de lire? Puis si la réponse c'est non, c'est pas grave. Vous aurez médité la parole de Dieu. Mais peut-être qu'il va vous montrer quelque chose par rapport à une situation au travail ou par rapport à une inquiétude que tu as ou un projet qui est un peu flou dans ta tête. Puis là, s'il te dit quelque chose, écoute. Madame, non, avant qu'il te dise... Mets-toi à l'écoute. Fais silence. Puis s'il te dit quelque chose, écris-le. Donc, cet exercice, j'aurais vous le dire au début, avec votre Bible, mais un calepin puis un stylo, d'accord? Et vous prenez des photos, mais je n'ai pas fini. Je crois qu'il y a un dernier point. Obéis! Oui. Donc, faites cet exercice-ci. C'est de croire vraiment que Dieu vous a parlé. Parce que c'est pas bon si le matin, tu te dis, « Ah, Dieu m'a vraiment parlé. » Puis là, l'après-midi, tu te dis, « Ah, ben finalement, j'ai oublié ce qu'il m'a dit. » Puis peut-être, au fond, c'était juste mon imagination. Le problème avec ça, c'est que Jacques, il dit, Si tu demandes de la sagesse à Dieu, crois qu'il te la donne, parce que sinon, il va arrêter de te la donner. OK? Alors, ose croire qu'il t'a parlé et obéis. Puis si tu penses que c'est flyé ce qu'il t'a dit, eh bien, demande conseil à quelqu'un en qui tu as confiance. Viens voir ton pasteur ou parle à ton conjoint. Hein? Ma femme m'aide beaucoup pour éliminer les fausses voix de Dieu. Mais des fois, c'est arrivé qu'elle m'a dit, mais Dieu me dit que ça vient vraiment de Dieu ce que tu viens d'entendre ce matin. Je l'ai moi-même entendu. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'écouter la voix de Dieu. Et tout ça, c'est relié à la prière. Père, que ta volonté vienne s'accomplir sur la terre et dans nos vies, comme au ciel. Amen. Alors, j'inviterai l'équipe de louanges à venir, parce que finalement, la prière, on vient de la faire. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, je vais vous demander, y a-t-il quelqu'un qui a essayé l'exercice ou y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il a entendu quelque chose du Saint-Esprit cette semaine? Amen.